droit au cœur, s'entraide.
Vous les connaissez peut-être pas tant que ça, mais ils sont gentils, gentils. Deux hommes en onde avec Jeff Blanchette et Paul-Raphaël Charon.
Dans Deux hommes en onde, voici La Voix en or, Luc Lavoie.
Luc Lavoie, bonjour.
Salut.
Bon, ça va bien. On parlait du premier anniversaire de la SQDC demain. J'imagine que t'as fait le plein de petits joints et t'es allé pour fêter ça
écoute,
demain.
Moi, j'y vais tous les jours. mais je dois te dire par contre qu'il y a un an exactement, donc tu me le rappelles, je fréquente un restaurant du centre-ville de Montréal, un restaurant très bien, mais je vais toujours là. Et on s'apprêtait à quitter vers 22h30 le soir. Puis là, le maître d'hôtel puis le proprio, disent, non, partez pas, restez au moins jusqu'à minuit, vous le regretterez pas, restez jusqu'à minuit. À minuit, il avait installé un système d'éclairage genre discothèque, ça s'est mis à flasher, puis là, les waiters sont sortis derrière le comptoir, derrière la cuisine, là, et ils amenaient des joints de potes à tout le monde. Ça, on fêtait la légalisation du pot.
Si boulot. OK, ça fait que t'as fêté ça en grand, puis la réservation est prise au restaurant pour asseoir. C'est noté. Non, mais Luc, je suis content, par contre, qu'on se parle aujourd'hui, puis que je puisse profiter de ton expérience, là, tout ce qui concerne l'actualité internationale, parce que, possiblement, l'une des plus grandes crises que l'Espagne a vécue depuis la fin de la dictature de Franco, a encore une fois pris une espèce de nouveau souffle récemment avec l'emprisonnement de 12 indépendantistes en raison de leur implication dans un référendum qui était, en 2017, un référendum qui était organisé démocratiquement.
Ouais. D'abord, c'est pas la pire crise. La pire, ça a été quand il y a eu une tentative de coup d'État en 1981.
Okay.
Donc, 6 ans après la mort de Franco. Et qui c'est ce qui avait fait la gloire de Juan Carlos, le roi. Parce qu'il avait mis, il avait revêtu ses uniformes militaires, parce qu'il y avait déjà les Cortés, le Parlement était sous contrôle des militaires. Il y a des photos célèbres de cette époque, tu vois, une espèce de tu sais, avec les chapeaux à licorne, là, puis...
Oui.
Avec le fusil en l'air et tout, puis à un moment donné, puis les unités militaires commençaient à se déployer, et Juan Carlos a réquisitionné le temps d'antenne de la télévision nationale, TVE, il est arrivé en uniforme militaire, puis il a dit, je ordonne aux troupes de rentrer dans vos casernes. La démocratie est là pour rester, bla, 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 bla. Alors, c'est ça qui a fait de lui un homme si admiré et si profondément aimé. Maintenant, la crise actuelle n'a rien à voir avec ça. La crise actuelle, c'est... Moi, j'ai vécu en Espagne pendant 2 ans. Je vivais en Andalousie, par contre. Donc, c'est pas tout à fait le même secteur, mais j'ai quand même été très souvent à Barcelone, qui est une ville fantastique. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'y aller. C'est vraiment une ville extraordinaire, une des villes les plus intéressantes au monde. Et je trouve qu'il y a... Et peut-être la comparaison est boiteuse, mais d'abord, il faut arrêter de comparer ça avec le Québec, premièrement. Là, parce que la Catalogne, là, c'est le moteur économique de l'Espagne. C'est la région de l'Espagne qui génère la richesse pour le reste du pays.
Un peu comme l'Alberta au Canada?
Ah, plus que ça. Plus que ça, parce que Barcelone, c'est un endroit de... Pas Barcelone, mais je veux dire la Catalogne, c'est une zone hautement industrialisée, également très, très versée vers le high-tech. Enfin, les Catalans sont probablement les plus éduqués d'Espagne. Pour tout dire, les Catalans en Espagne sont comme une aristocratie. Évidemment, les Castillans, ceux de Madrid, vont dire, ben voyons, qu'est-ce que tu dis là? Mais la vérité, c'est ça. Ils sont plus riches, sont plus éduqués, sont plus sophistiqués. Ils ont un fameux journal là-bas, La Vanguardia, qui est un journal absolument fantastique qui se compare à ce qui se fait de mieux dans le monde. Mais le problème, c'est qu'il vient pas de là. J'allais faire ma comparaison qui est la suivante. C'est la comparaison, c'est avec les gilets jaunes. Faut comprendre que là-bas, là, même si ça nous laisse cette impression vue d'ici, c'est loin d'être unanime le désir de se séparer de l'Espagne. Mais pas mal loin d'être unanime. Et pourquoi les gilets jaunes? Parce que les classes d'élite de la Catalogne n'embarquent pas dans ce projet d'indépendance de la Catalogne. En fait, la dénonce, et on parle ici d'intellectuels et de personnages extrêmement importants qui la dénoncent autant qu'ils peuvent. Mais il s'est bâti à travers le temps une espèce de petite organisation séparatiste Parce que, tu vois, quand tu remontes à l'époque franquiste, 1939 jusqu'à 1975, Franco avait eu beaucoup de difficultés à écraser les rebelles en Catalogne. S'en était souvenu, considérait que ces gens-là n'étaient pas fiables, ne seraient pas loyaux. Alors, la répression qui s'est abattue sur la Catalogne sous Franco était épouvantable. Faut savoir, par exemple, que t'avais carrément pas le droit de parler catalan. T'avais pas le droit. Si tu te faisais prendre dans la rue en train de parler catalan à ton chum, bang, il te mettait en dedans. Le maire de Barcelone, moi j'avais assisté à un très grand moment, c'était les Jeux Olympiques de 1992, et il faut savoir que Juan Antonio Samaranch, qui était le président du Comité international olympique, est un catalan qui avait été nommé gouverneur civil de la Catalogne par Franco. En d'autres mots, quasiment ce qu'on appelle le roi nègre. Samaranch ne parlait jamais catalan, et c'est lui qui présidait à la répression. Et parmi les leaders de ce mouvement qui voulait tenir tête au pouvoir central, il y avait un certain Pascal Maragall. Pascal Maragall, au moment des Olympiques de 1992, et j'étais sur place lors de la cérémonie d'ouverture, ça avait été un moment d'une émotion absolument incroyable, qu'il fallait connaître l'histoire pour comprendre pourquoi. C'est qu'à un moment donné, Juan Antonio Samaranch prend le flambeau, puis le donne dans les mains du maire, et là, le président du Comité international olympique prend la parole, et ensuite Maragall prend la parole. Là, il y avait une espèce de silence dans la place. C'était le stade Montjuïc, il y avait 80 000 personnes dans ça. Il y avait un silence, tout le monde retenait son souffle. Est-ce que Samaranch va parler catalan? Il l'a fait. Mm-hmm. Ensuite, Pascal Maragall est arrivé, très ému d'avoir entendu Samaranch faire ça. C'était comme quasiment une façon d'admettre sa culpabilité pour les années passées. Et il y avait une très grande réconciliation. Évidemment, le prince Felipe, l'actuel roi, était là lors des événements que je te décris. Alors, tu te reportes dans le futur. Et là, tu te retrouves... Donc, la Constitution de 1975, c'est la Constitution de 1978. Franco est mort en 75. En 78, cette Constitution-là, qui avait été négociée entre les principales forces politiques du pays, concédait à la Catalogne, ainsi qu'au Pays Basque, et dans une moindre mesure à la Galicie, c'est-à-dire les trois composantes, les trois autonomies, comme on les appelle là-bas, qui avait maintenu à travers les temps, à travers les siècles, une langue différente. Le catalan, le basque et le galicien. Alors, donc, pour les Castillans, qui sont vraiment ceux qui gouvernent l'Espagne à travers le temps, ça a été ça, ils avaient fait pour eux, à leurs yeux, ils avaient fait une concession immense à la Catalogne. Oui. En lui, d'abord... On peut réouvrir les écoles en catalan, on peut parler catalan, on peut s'en vanter, on peut faire tout ce qu'on veut. Et puis, en fait, il y a des Catalans de très grands talents qui se sont joints au gouvernement. Et il y a eu cette période absolument délicieuse de l'histoire de l'Espagne qu'on a appelée la Movida. La Movida, c'est 75 Franco meurt, 78 la nouvelle constitution qui fait de l'Espagne une monarchie constitutionnelle comme ici, c'est-à-dire qui retire les pouvoirs au chef d'État qui est le roi. Et peu après, c'est l'élection de Felipe González. Felipe González, c'était un avocat originaire de Séville qui avait été en prison, entre autres parce qu'il se battait contre le régime franquiste. Et il avait une gueule de jeune premier, González, puis c'était un orateur.
Comme Jeff.
Ouais, c'est ça, il me fait penser à Jeff.
Ben oui, c'est ça.
Ou mettons, toi, si tu te rasais à la barbe une bonne fois, ça
n'a pas
de
bon...
Voyons donc!
Jamais de la vie!
Es-tu djihadiste?
Il faudra me marcher sur le corps, Luc. Mais n'empêche, Luc, il reste que...
Alors, j'y viens, là. La Movida, c'est un moment où tout le monde en Espagne aimait tout le monde s'aimait les uns les autres, la fracture du pays gauche-droite, la fracture communiste-conservateur, tout ça, c'était tout sauté. C'était l'époque où on a vu apparaître Pedro Almodovar et Antonio Banderas et Penélope Cruz, ça date toute de cette époque de la Movida, cette grande renaissance. Puis à un moment donné, l'Espagne... Tu vois, en Catalogne, t'avais à peu près 5-7% de chômage, puis en Espagne, à ce moment-là, 22-23. Faut dire qu'il y avait bien du marché noir, là, mais néanmoins, c'était ça la différence. Et à un moment donné, les Catalans ont décidé, pas les Catalans, l'équivalent des Gilets jaunes, une espèce de petite patrie nationaliste.
Ben, les Gilets jaunes, c'était quand même la classe moyenne, Luc. C'était quand
non.
Même,
Non. Les Gilets jaunes, c'était les travailleurs. C'était des cols bleus. Non, pas du tout. C'était pas la classe moyenne du tout. Non. Les Gilets jaunes, je m'excuse, Paul Raphaël, là, mais ça jouait pas dans la classe moyenne du tout.
Non, mais c'est parce qu'à un certain moment, il y avait quand même des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, c'est pas juste des cols bleus.
Oui, mais dans un pays de 65 millions, tu peux en avoir 10 000, puis c'est pas beaucoup.
Ouais, alors, je veux bien, mais je te parle pas des premiers du mouvement, ni des derniers balbutiements qui existent encore d'ailleurs, mais dont plus personne
Tu veux
parle,
dire, à la longue, il y a des élites ou des gens de la classe moyenne qui ont voulu les appuyer un peu. C'est vrai. Mais les Arzels qui faisaient sauter les vitrines à Paris, j'étais là l'année passée quand ça se passait. Bon, alors, le mouvement là, qui est dans la rue présentement, là, ça ressemble beaucoup aux Gilets jaunes. Les élites catalanes s'éloignent de ça, savent pas quoi faire avec
mais,
ça.
Mais on n'enferme pas pour autant des élus qui ont voulu faire un référendum, Luc. Ben, on les emprisonne pas dans une démocratie.
Ben moi je dirais qu'on le fait pas, mais néanmoins, il y a une constitution en Espagne qui fait de la sécession un crime aussi grave qu'un meurtre. Okay? Elle est là, la Constitution.
Ouais.
Et c'était une Constitution qui avait été, à l'époque, considérée comme étant exemplaire. Et elle est là, la Constitution. Alors, tu as eu le problème du Pays basque qui, lui, a fini par tomber dans le terrorisme, l'ETA. Mm-hmm. Les Catalans se sont tenus assez loin de ça, mais il faut savoir que les Catalans, la haute classe, tout ça, ils sont très branchés, ils sont sur la frontière française. Le catalan est quasiment un mélange entre le français puis l'espagnol. Alors, ces élites-là, ils sont heureux en Catalogne. Ils veulent rien savoir de cette gang de nationaleux. Ça les énerve comme ça n'a pas de bon sens. Puis, le gouvernement espagnol central, qui a encore des vieux réflexes d'autrefois, s'est dit « Wow! » On laissera pas aller les Catalans parce qu'après ça, ça va être les Basques, après ça, ça va être les Galiciens, après ça, ça va être un autre. Il n'y en a pas question. Point, barre, tourne la page. Alors là, t'as quoi? On dit qu'il y a jusqu'à 40 000 personnes dans les rues. T'as eu des vitrines fracassées, badada, badada, badada. Mais je pense que premièrement, je pense que ça va se calmer. Là, il va falloir que ça se calme parce que tu comprends que Barcelone puis ses environs, là, c'est un des niveaux de vie les plus élevés d'Europe. Là. Ça se mesure avec le nord de l'Allemagne, avec Hambourg, si tu veux. Là. C'est comme une ville absolument exceptionnelle par sa situation géographique d'être aussi prospère. Les gens là-bas disent « Mais je vais laisser aller la prospérité. » Puis en fait, si on devenait indépendant, j'aurais-tu plus le droit de parler catalan? La réponse, c'est non. Est-ce que j'aurais moins d'argent envoyé au gouvernement central? Possible. Mais sur cette base-là, comprends-tu, ça va revenir en guerre civile, cette affaire-là. Les Castillans, qui sont l'autre groupe dominant, hein, et les Aragonais, là, ils prendront pas. Et moi, je me désole de voir tout ça. J'adore l'Espagne, j'adore les Espagnols. Je me souviens d'avoir rencontré un groupe de Catalans à un moment donné qui m'avait dit, tu sais, si on obtenait le statut juridique du Québec au sein de la Fédération canadienne, si on avait l'équivalent, c'est-à-dire une fédération avec des pouvoirs réellement dévolus et un pouvoir de taxation, on serait heureux, on célébrerait.
Ce serait assez, exact.
Ce serait beaucoup plus que bien des gens en rêvent.
Okay.
Alors, c'est triste. C'est très triste, même. Je les regarde aller, puis je me dis, ah, puis je les connais, ils ont le sang chaud. Quand ça monte là-bas, ouais, là, ça monte. Oublions pas que la guerre civile de 1936, ça a été un des pires boucheries de tous les temps.
Merci, Luc.